Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans le Carnet de Région, magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Tout au long de ce mois de mars, Radio Alliance Plus est rédactrice en chef.
Aujourd'hui, nous commencerons par faire un tour au salon du TAF qui a eu lieu cette semaine à Carcassonne.
Ensuite, direction l'Hérault pour un premier bilan des zones de sécurité prioritaires, 6 mois après leur mise en place.
Le livre « Vote FN, pourquoi ?» est apparu aux éditions Au Diable Vauvert la semaine dernière. Comme son nom l'indique, il revient sur les raisons du vote FN dans le Gard.
Puis nous entendrons José Bové, le député européen d'Europe Écologie Les Verts. Il s'insurge contre la réforme de la politique agricole commune. La PAC est débattue en ce moment au Parlement européen. Pour José Bové, la PAC favorise toujours et encore les grandes et grosses exploitations agricoles.
Enfin, des membres de l'association ATTAC nous diront quelques mots au sujet du festival de cinéma altermondialiste Mars ATTAC, qui se déroule en ce moment à Nîmes.
Et pour commencer, le salon du TAF, Travail, Avenir, Formation, s'est tenu cette semaine à Carcassonne pour la 6e année consécutive. C'est un reportage d'Éric Boyer pour RCF Pays d'Aude.
Le 6e salon TAF, Travail, Avenir, Formation, s'est ouvert à la salle du Dôme de Carcassonne ce mardi. Il dure 2 jours et il est porté notamment par le conseil régional, en partenariat avec la mission locale et Pôle emploi notamment. Écoutons une des organisatrices, Christiane Rouget de Pôle emploi.
On estime qu'à tout moment du circuit d'un individu, il peut très bien avoir besoin d'un emploi, mais pourquoi pas d'une formation complémentaire ou différente.
C'est global, c'est une approche globale.
C'est une approche globale, donc je pense que c'est là également la force de ce salon Travail, Avenir, Formation. Vous avez tout le stand des entreprises qui recrutent, qui ont commencé à recruter ce matin et pour lesquels même certains sont partis puisqu'ils ont terminé leur recrutement. Et pour lequel nous continuons donc sur 2 jours pour clôturer cette manifestation et proposer le maximum d'opportunités.
Donc concrètement, il y a des entretiens d'embauche qui se déroulent ici et qui se concluent. Donc des entreprises s'en vont et ont eu leur quota de personnes qu'elles cherchaient.
Tout à fait. Alors vous dire que les entretiens sont faits et la personne repart avec son employeur, pas forcément le jour même. Il y a des pistes qui sont données. Il y a des rendez-vous qui sont refixés pour recevoir peut-être les personnes dans un endroit plus calme, qui est beaucoup plus institutionnel au niveau de l'entreprise. Mais quand on discute avec les employeurs présents dans l'année sur les stands, ils nous disent que grâce au TAF, ils ont pu recruter une partie de leurs équipes. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas que des postes qui sont axés sur de la saisonnalité, puisqu'il y a des emplois pérennes qui sont proposés. Ça va de tous les secteurs, de l'hôtellerie saisonnière, vous avez le secteur bancaire, les assurances, les commerces, l'industrie, l'agriculture, les transports, dont tous les secteurs sont représentés.
Et au terme de sa première journée à Carcassonne, le salon TAF a attiré plus de 4000 visiteurs. La fréquentation sur les 2 jours est habituellement d'environ 10 000 visiteurs.
Le salon du TAF est porté par notre région dans tous les départements. Les salons encore à venir auront lieu à Perpignan le 22 mars au Parc des Expositions, puis à Nîmes les 27 et 28 mars au Parc des Expositions et enfin à Mende le 4 avril à la Halle Saint-Jean.
ZSP, 6 mois après. L'été dernier, Lunel et Moggio dans l'Hérault avaient été parmi les premières à être placées en zone de sécurité prioritaire par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Au programme, plus de moyens, plus d'effectifs, plus de contrôle et plus de prévention.
Aujourd'hui, c'est l'heure du premier bilan. Positif à en croire les principaux intéressés, à commencer par Yvon Bonnel, maire de Moggio, au micro de mode de Bourquenay, pour RCF Maguelone.
Nous sommes satisfaits de voir que les chiffres de la délinquance baissent, les cambriolages baissent. Sur Moggio, dont les chiffres qui ont été annoncés, c'est moins 12% contre les cambriolages, moins 18% sur les vols commis sur les véhicules. Donc une situation qui s'améliore dans une zone qui n'a pas la réputation d'être particulièrement pathogène, mais qui aujourd'hui fait clairement apparaître cette volonté partagée entre les services de l'État, entre le parquet, la gendarmerie, entre les bailleurs sociaux, l'éducation nationale et les collectivités locales, une véritable volonté de rendre ce territoire plus serein.
Ah, vous l'avez dit, Moggio n'était pas forcément l'endroit qui en avait le plus besoin, mais qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment ?
Eh bien, ça a apporté surtout un travail en réseau avec les services de l'État et le parquet. Ça nous permet également de travailler avec la ville de Lunel sur deux zones qui ont une même problématique qui se décline avec, disons, des intensités différentes, mais qui nous permettent de travailler comme nous le faisons habituellement avec les intercommunalités voisines.
Comment ça se traduit concrètement sur le terrain ?
Bien, sur le terrain, il y a une présence accrue, une vigilance accrue en termes de gendarmes. Il y a surtout du réseau. Nous avons des réunions mensuelles avec la gendarmerie et les services de police municipale. Nous avons en termes également de prévention situationnelle, c'est-à-dire avec les caméras, nous avons investi, donc nous en sommes à une quarantaine de caméras, c'est-à-dire nous en mettons 7 supplémentaires pour justement travailler sur le dispositif de prévention.
De son côté, Serge Rovetta, adjoint au maire de Lunel, chargé de la sécurité, constate aussi une diminution des cambriolages et des vols de voitures. Mais encore beaucoup de violences non crapuleuses, conjugales ou familiales, des violences qui tendent à augmenter avec la crise. Serge Rovetta ressort toutefois optimiste de ces 6 mois, même s'il n'était pas très enthousiaste au départ.
La ZSP, au début, nous étions un peu réticents parce que l'effet d'annonce nous avait un peu surpris. Nous travaillons sur ce sentiment d'insécurité. Et quand on a 10 ZSP, les gens sont affolés. Ça téléphonait en disant « oh là là, on a mis les pieds et tout ». Mais parce que ça voulait dire que tous les efforts que nous avions faits depuis 2001 pour dire Lunel baisse en insécurité et tout, de suite, ZSP, c'était ça y est, ça explosait, quoi. Et des gens nous avaient dit, ah, je suis en train de négocier un appartement, j'arrête, quoi. Et puis là, avec l'usage, disons, les rencontres, nous, de toute façon, nous avions une réunion de coordination tous les lundis avec les forces de l'ordre, où on échange nos informations. Et la ZSP nous montre que le renfort des DSI nous a apporté une sécurisation sur le territoire. Puis à l'usage, on s'aperçoit. Quand on modifie les habitudes, le système de travail, ben, tout avance. Hein, ça, c'est les Français un peu.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Au lendemain des élections de 2012, le Gard est apparu à la France comme le département qui place le FN en tête. Premièrement, il a propulsé Marine Le Pen en tête des élections présidentielles au premier tour. Deuxièmement, Gilbert Collard a été élu comme député du Front National sur la deuxième circonscription gardoise.
Face à ce constat, la maison d'édition Au Diable Vauvert, basée à Vauvert, ainsi que 5 auteurs ont décidé de se pencher sur les raisons de ce vote. Un peu moins d'un an après le résultat, voit le jour cet essai collaboratif intitulé « Vote FN, pourquoi ?».
Élian Cellier, le professeur d'histoire-géographie, a rédigé un des 5 chapitres de ce livre. Il répond par téléphone aux questions de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Après ce qu'on a considéré comme un choc, le fait que le Gard soit le seul département qui mette en tête le FN au premier tour des présidentielles, c'est moi qui contactais Marion Mazorik, bon, parce que moi je connaissais sa maison d'édition, je connaissais un peu ses engagements aussi par ailleurs. Puis en fait, Vauvert était au centre de l'actualité, parce que bon, on savait que à la fois c'était un gros vote au présidentiel, et puis derrière on savait que les législatives avec Collard, ça, c'était un lieu stratégique, donc la France entière regardait Vauvert. Donc voilà, donc c'est moi qui ai interpellé Marion pour lui dire mais qu'est-ce qu'on fait. Et puis bon, l'idée après a fait son chemin. Entre temps, les législatives sont passées, donc avec l'élection, bon, sans surprise, de Collard. Et donc voilà, on a commencé à travailler, monter une équipe, et voilà, le projet qui sort aujourd'hui. Je me préoccupe de la montée de l'extrême droite en général, et puis j'ai un engagement, moi, je me revendique clairement contre le FN. Donc par exemple, au moment où Jacques Blanc à la région avait fait l'alliance avec le Front National, moi j'étais déjà dans l'éducation nationale, et j'avais animé, notamment du côté de Bagnoles, avec d'autres bien sûr, le mouvement Ralf Front pour empêcher une élue de la région qui était Front National d'assister au conseil d'administration. Donc voilà, c'est un engagement qui est assez ancien. Disons que moi je m'intéresse à la question de notamment des langues régionales et donc de la culture locale. Et donc je suis assez gêné, pour pas dire plus, par le fait que certains habitants de la région se retrouvent plus dans la figure de Tartarin de Tarascon que dans des héros positifs. Voilà. Donc on est des caricatures, je dis on, comme ça je me mets dedans, mais même si je me reconnais pas là, mais on se reconnaît dans une caricature qui bien sûr est assez négative, et on la revendique comme étant une culture. Et donc voilà, et donc avec tous les travers exagérés de la caricature, qui fait que bon, ça peut aboutir à ce vote FN. Je suis inquiet dans le sens où le gouvernement actuel, qui est officiellement de gauche, mène une politique qui n'est pas forcément très bonne pour ses électeurs. Donc je pense qu'il va participer à la désespérance d'une partie de son électorat. Et donc on peut craindre que les municipales de 2014 soient assez le moment pour exprimer un mécontentement. Donc effectivement, là, on peut craindre que certains expriment leur mécontentement dans le FN.
La réforme de la PAC, politique agricole commune, pour la période 2014 à 2020, a été débattue cette semaine par les États membres de l'Union européenne. Pour rappel, les origines de la PAC remontent au début des années 60, avec pour but d'accroître la productivité de l'agriculture et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole.
Avec le temps et ses réformes de 92 et 2002, la PAC subventionne les agriculteurs à l'hectare, autrement dit en fonction de la superficie de leurs exploitations et sans plafonnement. Ce que dénonce José Bové, député européen d'Europe Écologie Les Verts, invité de Radio Pays d'Hérault de cette semaine.
Aujourd'hui, on est dans une situation où 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Donc on est dans une situation complètement scandaleuse que tout le monde d'ailleurs reconnaît à la Commission.
Comment revenir à l'équité justement ?
Comment on revient à l'équité ? Donc normalement, était prévu dans la réforme de la PAC qui s'est discutée là, l'idée, un, de plafonner et de redistribuer. Or, on s'est rendu compte que sous la pression de l'agro-industrie, des États qui veulent garder chacune leur enveloppe de subvention, eh bien, il n'y a pas de plafonnement. Le seul plafonnement qu'il va y avoir, c'est un plafonnement à 300 000 euros par exploitation, mais pas pour les coopératives.
Et vous préconisez 100 000 ?
Nous, on proposait au moins de descendre à 100 000 euros, ce qui est déjà très important, mais ça permettait de dégager plus de 5 milliards d'euros par an pour financer le développement rural et des projets, remettre des abattoirs de proximité, des choses comme ça. Le Parlement européen et les États ont dit niette. Ce qui fait qu'on est resté à 300 000 euros. Donc on est dans un système absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'en fait la majorité conservatrice, et quand je dis conservatrice, c'est pas que politique, parce qu'il y a des conservateurs à gauche comme à droite dans le modèle agro-industriel. C'est-à-dire que ce modèle aujourd'hui est défendu, on va dire, par une majorité du Parlement, et qui n'est pas simplement d'un côté ou de l'autre.
25 des 27 États membres ont déjà alloué le budget de la PAC pour les 7 prochaines années. Il a été réduit de 12% pour s'établir à presque 400 milliards d'euros par an. L'agriculture reste le principal poste de dépenses de l'Union européenne, avec environ 38% du budget global.
Carnet de région, l'actualité en langue croustillon.
Nous allons maintenant parler de cinéma. Le festival de cinéma altermondialiste Mars Attack se déroule en ce moment au cinéma Le Sémaphore à Nîmes. Ce festival est organisé par l'association Attack, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne.
Deux de ses membres répondent au micro de Sylviane Viscromagnette pour Radio Alliance Plus. Ils évoquent aussi les actions qu'ils mènent et commencent par corriger l'image parfois négative de l'association.
C'est une association fort sympathique. Chaque premier mercredi du mois, nous nous réunissons et on fait toujours un repas ensemble, même si nous parlons de sujets sérieux. C'est la même chose pour les films que nous projetons, que nous, au Sémaphore, avec des partenaires. On essaie d'être sérieux, mais dans une ambiance, une bonne ambiance. C'est vrai que le cinéma, pour Loïc et pour moi, c'est ce qui nous a attiré un peu vers l'action, on va dire, altermondialiste.
Et vous pensez que ça peut justement créer d'autres engagements ?
Mais on l'espère. En tout cas, on s'est rendu compte que Mars Attack permettait de toucher un nouveau public, de personnes qui ne connaissaient pas nécessairement Attack. Et c'est important pour Attack d'allier à la fois de travailler sur le champ culturel et également plus politique, je dirais au sens noble du terme, où on présente plusieurs films sur des thématiques différentes et systématiquement on propose un débat avec des intervenants d'Attack ou d'ailleurs, avec qui, des organisations ou des personnes avec qui on peut avoir des partenariats. Croyez-moi, on se décarcasse pour faire venir des intervenants de premier plan, des personnes qui viennent parfois de loin pour parler...
Des grosses pointures, comme on dit.
Certaines. Alors parfois d'autres, des intervenants plus locaux. Il y a un mix entre tout ça, mais on est assez, enfin, on est très satisfait à la fois de la programmation des films et des intervenants qu'on arrive à solliciter chaque année et qui répondent présents pour notre plus grand plaisir. Pour Mars Attack, on essaye un maximum de favoriser des partenariats, des collaborations avec les autres organisations locales qui peuvent œuvrer dans le même sens. Donc la particularité de cette 6e édition, le vendredi 22 mars, c'est une soirée racisme et nationalisme, un thème qu'on n'avait pas forcément exploré jusqu'à maintenant dans le cadre de Mars Attack. Donc c'est une soirée organisée avec la Ligue des droits de l'homme de Nîmes. Également, on peut citer donc le film du lundi 25 mars, Promised Land, sur la fiction de Gus Van Sant. Ce sera un film en avant-première, c'est pas mentionné dans le programme, mais c'est bien une avant-première. Et donc, on s'appuiera pour le débat sur les membres du collectif Nîmes Antichiste, puisque c'est de ce sujet-là dont il sera question. Et enfin, pour le dernier film de la semaine, À l'ombre de la République, sera une soirée avec un double partenariat. Donc, Attack a co-organisé cette séance avec l'Observatoire international des prisons et également le syndicat de la magistrature, qui est également membre fondateur d'Attack. Mars Attack est, semble-t-il, devenu maintenant un moment attendu dans le paysage culturel et politique nîmois. Donc on est satisfait de cette évolution-là, mais depuis le début, il y a eu une assez bonne réponse du public à Mars Attack. Pour autant, le comité d'Attack Nîmes ne se limite pas à l'organisation d'une semaine de cinéma au Sémaphore. Il y a également une exposition photo. On organise surtout des réunions publiques sous forme de conférences, sous forme de débats, dans différents lieux à Nîmes, avec des intervenants extérieurs ou non. Il y a ce type de manifestations qui sont les plus fréquentes. Il y a aussi des participations à des rassemblements, à des manifestations, à l'action de certains collectifs. Aussi, Attack a largement contribué à la création d'un forum social local sur le département du Gard. Il y en a pour, j'irais, pour tous les goûts. Attack, c'est aussi un conseiller scientifique qui produit des éléments d'analyse très, très construits et très, très pertinents. Mais charge à nous, comité local, de vulgariser ou d'apporter aussi d'autres éléments. On n'est pas tous économistes à Attack, et loin de là, dans notre comité local, il n'y en a pas un seul.
Oui, je crois que c'est important, parce qu'il y a peut-être une confusion. Hein,
à l'automne, nous avons invité quelqu'un qui a fait une pièce de théâtre, un poète et homme de théâtre, Fred Dubonnet. Donc ça, on est ouvert aussi sur la culture comme vecteur d'information et de sensibilisation. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a tout autour de nous des sujets, des difficultés dans la société. Chez Attack, on essaie de mettre ces sujets, d'en débattre, de se saisir de ces sujets et d'informer le public pour qu'il puisse être plus conscient de ça et éventuellement essayer de trouver une piste de solution.
Plus d'informations sur le www.france.attack.org.
Ainsi se termine notre carnet de régions pour cette semaine, magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.